Merci beaucoup, Giuseppe. C'était très important qu'on ait ce point, parce que cette espèce de minimum et de substrat en même temps est ce qui oriente en fait ensuite la construction d'une réflexion esthétique dans ses aspects philosophiques, mais aussi liés à l'histoire des arts, à la critique d'art, etc., etc. Et c'est cette espèce de socle fondamental qui est, comme vous l'avez très très bien dit, ce point de départ sur cette apparition et la façon dont cette apparition ne se dit, ne se voit, ne s'entend que dans ce feuilletage qui est ce qui construit une culture dans son histoire même et dans les temporalités de son histoire et dans sa rencontre avec d'autres cultures puisque ce système est ouvert. Bon. Alors comme j'avais dit qu'il fallait que je termine très rapidement et donc voilà, moi j'ai fait dans ce numéro un travail que j'ai construit à partir d'un seul tableau. C'est le tableau que vous avez de nouveau devant les yeux et qui est donc un tableau de Djamel Tata. Je lui avais demandé de nous en montrer quelques autres, de manière à ce que vous puissiez situer le type de travail que fait Djamel Tata. Je vous signale d'ailleurs que pour mieux voir ces tableaux, vous aurez à partir de décembre 2017, et ce jusqu'en mai, l'occasion de voir beaucoup de ses dernières œuvres, dont celle-là, à la Fondation Lambert à Avignon, où le travail de Djamel Tata sera montré dans une véritable ampleur et dans une confrontation avec des toiles de la collection, qui sont des toiles avec lesquelles ces tableaux dialoguent, et avec quelques objets et quelques œuvres de peinture ancienne, parce que la peinture de Djamel Tata est une peinture qui est une peinture d'aujourd'hui, qui dit et montre le monde d'aujourd'hui, mais le dit et le montre dans un travail sur les formes et la matière qui sont profondément ancrées dans une histoire de la peinture. Il ne faut jamais oublier que, pour reprendre l'anecdote que Pauline Nadrini a citée, que les peintres sont des êtres qui ont non seulement une mémoire de tableau qu'ils portent en eux, mais une mémoire de texte, de musique, etc. Donc la question du surplomb qu'on a évoqué tout à l'heure est justement liée à cette croyance naïve et prétentieuse que il faut ajouter des connaissances à l'œuvre et il s'agit plutôt de déplier ce qui nous permet d'enrichir notre connaissance dans l'œuvre. Donc je me suis livré à un exercice qui est un exercice absolument décisif dans la réflexion sur les arts et qui est celui d'une description d'un tableau. C'est un genre que l'esthétique a beaucoup pratiqué. Les commencements de l'esthétique sont liés au salon et le genre des salons est un genre où on doit aussi décrire des œuvres qu'on les autres ne voient pas. Parce qu'ils ne peuvent pas aller les voir d'emblée. Donc je me suis livré à cet exercice de description en partant de l'idée que la description, pour être une vraie description, est une description compréhensive, dans le sens qu'une certaine herméneutique donnera à cette idée, et que donc si on n'arrive pas à décrire une œuvre, on ne peut pas considérer qu'on on a comme point de départ une œuvre. D'autre part, il me semblait important de travailler sur une œuvre singulière, donc un seul tableau, Parce que les œuvres sont toujours singulières, même si une œuvre d'un artiste est prise dans l'œuvre de l'artiste. Mais cette œuvre est une œuvre ouverte, non pas dans le sens d'Umberto Eco là, mais dans le sens où un artiste a des bougies, et donc on ne sait jamais jusqu'où l'œuvre complète s'ouvrira. Mais en tout cas, l'œuvre complète comprend une série d'œuvres singulières. C'est pour ça que après, j'ai demandé à Jamel de nous offrir quelques autres œuvres de manière que cette œuvre prenne sa place dans la série de ses œuvres, avec l'idée que le rapport à un moment singulier dans une œuvre se lit mieux quand on en voit plusieurs. Donc on peut repasser le PowerPoint, etc. Juste pour qu'on en voit d'autres. On en a choisi très très peu. Parce que ça n'avait pas de sens d'en montrer trop, et que de toute façon, l'exercice que je pratique ici est un exercice qui va à l'encontre de ce que j'essaye de démontrer dans mon article, c'est-à-dire que une œuvre est quelque chose d'autre qu'une image, et je ne peux évidemment vous proposer ici que des images d'œuvres, mais ça fait partie des paradoxes, des situations d'enseignement dans lesquelles nous trouvons tous. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette œuvre, celle qui figure en noir et blanc dans le numéro? Je l'ai choisie parce qu'elle me semblait d'abord, elle m'a touché énormément. Cet homme qui porte un enfant, qui est-il, que fait-il, dans quel rapport s'installe-t-il à la mémoire des images que nous avons, les tragédies du monde qui nous entoure nous la rendent assez familière. Nous avons une mémoire d'image que le photoreportage sait utiliser pour produire d'autres images, et les peintres sont eux pris dans ce monde d'images qui est le leur, qu'ils retravaillent aussi. Jamel passe son temps à découper des images d'actualité, à les capturer sur écran, à les tirer, c'est-à-dire que le travail se fait aussi à partir des images, donc à partir de choses qui ne sont pas des œuvres d'art, mais qui se présentent comme des documents, des témoignages. L'image que vous voyez sur la télévision, sur vos écrans, dans vos journaux, c'est une image qui est aussi un matériau de départ, parce que l'articulation de notre mémoire et de notre imagination est peuplée de ces images qui sont ce que nous partageons. Quelque chose qui ne correspond pas exactement à la définition du sensus communis que donne Kant, mais qui sont de l'ordre d'un commun, que nous le voulions ou non. Et je me suis interrogée sur le fait de savoir quelle différence il y avait entre les images que nous recevons et un tableau qui est à la fois proche dans sa thématique, dans son sujet, comme on disait, d'un certain nombre d'images que nous connaissons, et qui en même temps tout autre chose. L'axe de mon questionnement était de savoir ce que je faisais d'une expression qui est devenue courante et qui est le pouvoir des images. On parle sans cesse du pouvoir des images pour le critiquer, s'en inquiéter, l'utiliser de manière politique avec une violence extrême dans le cas aujourd'hui des images qu'envoie Daesh pour faire sa propagande et susciter un peu plus de morts encore. Donc Ma question était, est-ce que nous pouvons vraiment dire que les images ont un pouvoir, ou est-ce que nous devons réfléchir au pouvoir que nous donnons aux images. C'est-à-dire, est-ce que ce sont les images qui ont un pouvoir ou est-ce que c'est nous qui leur prêtons ce pouvoir et que ce pouvoir nous est ensuite renvoyé en boomerang. Donc on est un peu sur les questions que Mildred a évoquées, c'est-à-dire on est dans ce problème de l'interaction entre les sujets que nous sommes et ces objets qui peuplent notre quotidien, nos cauchemars comme nos espoirs et qui sont les images. Et que peut faire le travail d'un artiste par rapport à ça, c'est-à-dire à cette question d'un pouvoir des images, c'est-à-dire que fait-il lui quand il fait un travail de peinture, en l'occurrence c'est ce que j'avais choisi, donc quand il peint un tableau qui est par rapport à ces images et par rapport à l'effet, aux affects que ces images produisent en nous. Parce que cette peinture est en quelque sorte une intervention. Je pense même qu'il faut dire, c'est ce que je dis dans l'article, c'est une action. Il est extrêmement important que nous nous rappelions que les artistes sont des êtres, et ça vaudrait pour un acteur, un metteur en scène, un compositeur, un architecte, les artistes, ce qu'ils font, ce sont des actions. Et leurs œuvres sont beaucoup moins des objets par rapport auxquels il faudrait rester dans une position sage de contemplation esthétique, avec tout ce que cette idée de contemplation esthétique charrie de problèmes de plaisir ou de déplaisir, parce que l'artiste n'est pas quelqu'un qui se met au travail et vit la vie qu'il vit pour que nous ayons des plaisirs et des déplaisirs. Ça n'est certainement pas sa visée première. Sa visée est une action et cette action est une construction, au sens où elle est constructive. Et elle exige de nous que notre sensibilité ne soit pas une sensibilité passive, donc que notre réception sache se faire action, à savoir attention et précision, exactitude, rigueur dans notre attention à ce qu'il fait. Ce type de temporalité qui est offert par l'œuvre d'art qui est le travail de l'artiste, qui est sa tâche, ce type d'attention me paraît décisif pour nous rendre nous-mêmes à nous-mêmes dans un rapport d'action et d'action sensible. Donc la question du Gefühl, la question du sentiment, du sentir, doit être traité dans cette perspective où on passe d'une réceptivité passive à une réceptivité active et renvoie à ce moment-là à cette question perceptive que nous avons déjà vue. Donc ça c'était voilà l'axe dans lequel j'ai travaillé et ce tableau me semblait dire ça beaucoup mieux que je ne viens de le dire et beaucoup mieux que je ne l'ai écrit, parce que ce tableau dit ce qu'il en est d'une solitude terrible, de ce qu'il en est de cette espèce de tout ce lexique que nous avons qui flotte complètement sur migrants, réfugiés, exilés, etc. et qui vient recouvrir tout un lexique historique que nous avons dont le XXe siècle est extrêmement riche et tristement riche. J'ai travaillé cette question par rapport à ce que font des historiens d'art qui sont aussi des penseurs de l'art comme dont le plus connu maintenant est devenu Abby Warburg avec cette idée d'un atlas mnémosyne donc et d'une migration des images dans laquelle il faut arriver à se situer. Si je faisais de l'iconologie warburgienne, je pourrais dire que ce tableau est un Saint Christophe, qu'il est aussi une Vierge à l'enfant, mais le personnage qui porte l'enfant n'est plus la Vierge, mais est un homme, et ceci n'a pas une importance dirimante pour être pris par ça. Donc, ce tableau est absolument installé dans une histoire de la peinture, avec une histoire des sujets, des motifs, et en même temps, il dit autre chose. C'est-à-dire que cet homme n'est ni Joseph ni Marie, l'enfant est peut-être un enfant Christ, mais est aussi tout enfant. Et donc, il me semblait qu'on voyait à cru, à nu, comment un tableau daté, extrêmement récent, est pris dans ce qu'on pourrait appeler une actualité quasiment journalistique, comment ce tableau touche à l'universel. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose d'intéressant dans le rapport à la mémoire, c'est dans cette capacité de mobiliser quelque chose qui est à la fois de l'ordre d'un choc émotionnel, d'une perception réitérée d'une mise en forme artistique, de trouver un régime esthétique par rapport auquel nous saisissons dans une singularité un universel par rapport auquel ensuite, en termes interprétatifs, je peux déployer toutes sortes de connaissances dont le tableau est porteur, dont le tableau est aussi un produit, mais qui produit en retour des contre-effets qui font que c'est à nous de choisir, en toute liberté, quel pouvoir nous voulons donner à des images et quelle liberté nous donne une œuvre par rapport à des images, parce que là, nous sommes renvoyés à sa construction et non pas à son apparence quasiment magique de vera icône dont on ne saurait jamais quel est le processus de fabrication, de production, donc qui dénierait l'artefactualité, parce que les images que nous voyons et sur lesquelles nous ne nous interrogeons pas sont toutes des images très fabriquées, très retouchées, construites, et qui jouent elles-mêmes de la mémoire de tableaux, dont un tableau est porteur et en même temps réinventeur. Parce que ce que fait un tableau par rapport à une mémoire de tableau, c'est de s'inscrire dans un type et de jouer de l'écart au type de manière à réinventer autre chose qui nous aide. Peut-être voyons-nous mieux certaines images quand nous avons vu des tableaux de Jamel Tata, que nous ne les voyions auparavant, et ça fait partie de ce que réalise, mais par réalise, je dis fait rentrer dans la réalité, donc nous donne à comprendre ce que c'est que du réel, une œuvre artistique, en l'occurrence un tableau. Et donc, par rapport à ça, j'ai ensuite essayé de réfléchir à cette idée que si nous préférions cesser de parler de pouvoir des images, mais de réfléchirions à ce qu'il en est du pouvoir que nous donnons aux images, nous arriverions peut-être un peu mieux à penser le rapport entre violence et pitié, dont les images de Daesh nous proposent une solution, qui sont que les images sont de pure violence pour produire la seule peur et absolument aucune pitié, alors que toute notre tradition occidentale, qu'elle soit grecque, chrétienne, judéo-chrétienne, etc., sont des images qui ont toujours travaillé autour de la question de la pitié comme capacité à nous remettre l'âme en place, en quelque sorte, par la beauté de l'œuvre, de la pitié comme quelque chose qui fait que nous savons que, comme sujet, nous ne pouvons exister au sens de construire notre expérience du monde et de nous-mêmes, qu'à condition que nous sachions qu'il y a des autres et que cette pitié et ce va-et-vient qui fait que le lointain devient proche, le proche résonne d'un lointain, même celui qui nous est le plus étranger, et qu'il est absolument étonnant de voir comment une sorte de haine de la pitié et des fonctions de la pitié devient le moteur d'une production de pure image dont le côté lisse et déréalisé rapporte une réalité qui, elle, est pure violence pour simplement nous terroriser. Donc voilà très brièvement le chemin que j'ai pris. J'espère qu'on n'a pas été trop long et que vous aurez le temps de pouvoir poser des questions.